Excellent.
Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien ce matin?
Oui.
On remercie le Seigneur pour les bonnes nouvelles qu'on a reçues de Sonia, de Aurore. Enfin, on est content. Que Dieu soit béni. Dieu exauce toujours les prières. Amen.
Amen.
C'est vrai. On va louer le Seigneur ce matin, mais avant on va étudier la parole de Dieu. Colossiens 2. Colossiens 2, 14 à 15. Il, c'est-à-dire Dieu, a effacé l'acte aux 1000 articles qui nous accusait, car il mentionnait toutes nos transgressions de la loi de Dieu. Il l'a annulé, il l'a cloué à la croix. Il a démasqué, puis il a désarmé les autorités et dominations de l'enfer. Il a exposé leurs faiblesses devant l'univers. Il les a traînés derrière son char triomphal à la croix. Amen. Ça, c'est dans la version de la parole vivante de Alfred Kuhn. J'aime beaucoup cette version. Et de temps en temps, quand je lis dans cette version, je me dis, mais attends, est-ce que c'est vraiment... Alors, je vais regarder dans les autres. Et oui, c'est la même chose, mais c'est simplement dans un français beaucoup plus accessible. Ce sont des paroles très fortes. Jésus a effacé l'acte aux 1000 articles. Alors, bon, on sait que les Juifs ont 613 commandements, mais bon... l'apôtre Paul arrondit le chiffre pour nous montrer que cette loi était pour nous un acte immense d'accusation. Hein. C'est comme quand on dit quelque chose 1000 fois, bon, ça, c'est un chiffre, voilà. On va faire une autre lecture dans Romains 7, verset 4. Romains 7, 4. Romains 7, à partir du verset 4. Il en est de même pour vous, mes frères. La mort subie par Christ, c'est aussi la vôtre, puisque vous êtes devenus un avec lui. Cette mort a creusé un fossé infranchissable entre la loi et vous. Si vous êtes mort, le lien qui vous unissait à la loi est donc rompu. La loi n'a plus de pouvoir sur vous. Vous êtes par conséquent libre d'appartenir à un autre, de contracter une union avec lui, je veux dire avec Christ, le ressuscité, qui vous a racheté à la mort avec lui. Uni à lui, vous pouvez à présent porter des fruits pour Dieu et accomplir ce qui lui est agréable. Lorsque livrés à nous-mêmes, nous croyions mener notre vie selon notre bon plaisir, c'était en fait nos instincts corrompus qui nous dictaient notre comportement. La loi ne réussissait qu'à exciter et attiser nos passions. Le désir coupable, exaspéré par l'interdiction, il suffit de dire à un gamin, faut pas faire ça pour qu'il aille le faire. Bon, on est pareil, hein. Moi, je me rappelle, mon petit frère, on avait un fourneau à charbon chez nous et ma mère l'avait dit, faut pas toucher, hein, tu touches pas avec les doigts. Alors, il s'approchait, puis alors on regardait comment il allait faire. Alors, plutôt que d'aller toucher avec les doigts, il a été touché avec la joue. Non, mais c'est pour vous dire, la loi, elle attise notre... on est exaspéré par l'interdiction, ça nous poussait au mal. La loi nous poussait au mal. Il était si actif dans nos membres que les fruits de notre vie nous destinaient à la mort. C'est-à-dire le péché nous conduisait à la mort. Mais maintenant, nous avons été soustraits au pouvoir de la loi. Le tyran n'a pas pu retenir ses esclaves. La mort nous a fait sortir de la prison où la loi nous gardait captifs. À présent, nous possédons une nouvelle vie. Nous sommes libres de servir Dieu et nous le servons. Non plus comme sous le régime périmé d'un code légal, en étant assujetti à des prescriptions écrites, mais d'une manière spirituelle avec les forces que nous donne l'Esprit de Christ qui vit en nous. Faudrait-il encore conclure que la loi, faudrait-il conclure que la loi est péché? Faudrait-il en conclure que la loi et péché sont une seule et même chose? Non, certes. Mais la loi, par la loi, j'ai appris à identifier le péché et à prendre conscience de ma culpabilité. Par exemple, je n'aurais pas su que c'est mal de désirer ce que d'autres possèdent si la loi ne m'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Je ne me serais jamais senti coupable de cette déclaration. Mais alors le péché qui était en moi a trouvé dans le commandement une occasion donc de se manifester. Il s'en est forgé une arme contre moi. L'interdiction même lui a servi pour susciter en moi toutes sortes de convoitises. La défense n'a fait qu'exciter mes mauvais désirs. Or, là où il n'y a pas de loi, le péché est inerte. Ah, autrefois, avant d'être soumis à la loi, c'est-à-dire entre 0 et 12 ans chez les Juifs, parce que c'est à l'âge de 12 ans que les Juifs sont soumis à la loi, ils font leur bar mitzvah et ils sont considérés comme adultes spirituellement. Donc autrefois, avant d'être soumis à la loi, je vivais tranquille. Mais dès que survint le commandement, c'est-à-dire à partir de 12 ans, quand il a fait sa bar mitzvah, le péché s'éveilla à la vie. Et moi, je mourus. Je pris conscience d'être un pécheur, c'est-à-dire un condamné à mort. Ainsi, la loi qui devait me servir de guide sur le chemin de la vie m'a en fait mené vers la condamnation et la mort. En réalité, le commandement devint l'instrument du mal qui a saisi cette occasion pour me séduire et me tuer. Car la loi en elle-même est sainte, et chaque commandement est saint, est juste, est bon. Est-il donc possible que quelque chose de bon en soi ait des conséquences aussi néfastes? Le bien peut-il me faire mourir? Évidemment, non. L'auteur de ce crime, c'est le péché. Sa véritable nature devait être démasquée, or, en me donnant la mort par une bonne chose, il a montré son vrai visage grâce au commandement. Il est apparu dans toute sa virulence. Sa nature foncièrement maléfique a donc paru au grand jour. L'apôtre Paul dira ailleurs, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché. Ah, le péché qui est en moi. Vous voyez, c'est très profond ce qu'il dit là. C'est très profond. Alors, Dieu a cloué cette loi à la croix. Il a dépouillé le diable et ses puissances de toute leur autorité. Dieu, notre Père, a donné l'autorité à son Fils et il l'a fait en montant un spectacle absolument frappant. Dieu a publiquement livré en spectacle le diable, le péché, nous, en Jésus-Christ, en triomphant de tout par la croix. C'était effrayant de voir quelqu'un mourir sur une croix. Dans son épître aux Éphésiens, Paul montre que le Fils est assis au-dessus de ses puissances et qu'il possède l'autorité du trône de Dieu. Et voilà exactement où les dénominations religieuses et les diverses églises ont échoué. Alors oui, tous dans ces dénominations croient que Jésus-Christ est le chef suprême de la puissance de l'Église. Mais pourtant, la grande majorité des chrétiens ont négligé de voir, parce qu'on ne leur a pas enseigné la plupart du temps, et puis parce qu'ils lisent pas la Bible, ils ont négligé de voir la tête, Jésus. Ils ont négligé de voir que la tête, que Jésus, dépend complètement du corps, c'est-à-dire de l'Église, pour l'exécution de ses projets. Ils ont négligé que nous sommes assis avec le Christ dans les lieux célestes et que l'exercice de notre autorité sur les puissances de l'air ne peut se réaliser qu'au moyen du corps de Christ. Il est la tête, mais nous sommes le corps qui agit sur cette terre. Mais au lieu d'un corps autoritaire contre les puissances du mal, l'Église est devenue un machin tout mou, un troupeau bêlant, mendiant, et qui demande à Dieu de faire ce que Dieu veut que nous fassions. C'est invraisemblable. Rien compris. Regardons Matthieu 18:18 dans la parole vivante. Ça va vous choquer un petit peu parce que vous connaissez d'autres façons de le dire. Voilà ce qu'il dit. Vraiment, c'est Jésus qui parle, je vous l'assure, tout ce que vous aurez défendu ou permis sur la terre sera sanctionné par l'autorité divine. Alors évidemment, dans vos versions, dans les versions courantes, normalement, on a, c'est écrit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux, et c'est très bien. Mais maintenant, ça ne veut plus rien dire pour la plupart des gens. Ils savent plus ce que ça veut dire. Là, il dit, tout ce que vous aurez défendu ou permis sur la terre sera sanctionné par l'autorité divine. Si vous dites, ça c'est pas bien, Dieu dit, c'est pas bien. On va lire Matthieu 16:19. C'est fort, hein? Matthieu 16:19. Ce que tu interdiras ou permettras ici-bas sera sanctionné par l'autorité divine. Alors les gens pensent que c'est seulement à l'apôtre Pierre que Jésus a dit ça. Oui, Jésus l'a dit à Pierre le jour où Pierre a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». C'est vrai. Il a dit aussi « Tout ce que vous aurez défendu ou permis sur la terre sera sanctionné par l'autorité divine ». Et ce n'est pas seulement qu'à Pierre que cette autorité a été donnée. Et c'est pas seulement, alors, parce que maintenant ils ont trouvé le truc, ils disent, il y a les successeurs de Pierre. Ah oui, c'est qui? C'est le pape. Le pape, il est vicaire du Christ. Vous savez pas ce que ça veut dire vicaire, mais vous dites, le pape c'est le vicaire du Christ. Vicarius Deo Filii, je sais plus comment ils disent. Vicaire, vous allez regarder dans un dictionnaire, ça veut dire remplaçant. Le pape est le remplaçant de Christ. Voilà pourquoi ils disent qu'il est infaillible. Mais dans le chapitre 18:18, ce qu'on a lu tout à l'heure, Jésus le dit aux croyants, pas seulement à Pierre, mais à tous ceux qui ont la révélation que Pierre a eue. Jésus-Christ, tu es le Fils de Dieu, du Dieu vivant. Tu es le Messie. C'est sur cette révélation que l'Église est construite, pas sur Pierre. D'abord, il dit pas c'est sur toi que je. Il dit, il emploie deux mots. Il emploie le mot caillou et le mot pierre. Comme ça, ceux qui ne doivent pas comprendre ne comprennent pas. Puis c'est tout. Ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résistent à ceux qui ont cette révélation que Jésus-Christ est le Messie, le Fils du Dieu vivant, et que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, et que l'autorité qu'il a, il nous l'a donnée, et que nous avons à l'exercer sur cette terre. En son nom, quand on dit « je fais quelque chose », par exemple, si j'envoie Michou à la banque faire quelque chose à ma place, il y va en mon nom. C'est comme ça ou c'est pas comme ça? Eh bien, quand vous dites au nom de Jésus, ça veut dire je le fais à la place de Jésus, par l'autorité de Jésus, par l'autorité qu'il m'a donnée. C'est légal, j'y ai droit à cette autorité, et cette autorité est véritable et efficace. Nous croyons, nous avons à exercer l'autorité de Jésus sur la terre. Au lieu de cela, le peuple chrétien s'est donné des chefs que l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, nomme Enfin, c'est pas Jean, c'est carrément Jésus qui dit des Nicolaïtes. Ça vient de deux mots grecs qui signifient des gens qui dominent sur le peuple. Et Jésus dit, je déteste l'œuvre des Nicolaïtes. Ils sont donnés des chefs, intronisés des chefs comme infaillibles. Et le peuple rampe, et il mendie, et il pleurniche des prières dépourvues de force. Oh Seigneur, quel gâchis, quelle perte de temps. Allez au cinéma, vous aurez, c'est plus efficace. Il nous faut apprendre à coopérer avec Jésus-Christ par la foi. Connaître quelle est sa volonté. Apprendre. L'idée que Dieu est un tyran, c'est une idée fausse. Il n'est pas là dans le ciel en train d'écouter nos prières en disant « Non, t'as pas prié assez longtemps, non, il faut que tu jeûnes plus que ça. Ah non, non, je t'exauce pas parce qu'aujourd'hui je suis pas de bonne humeur. » Ou « Non, t'as pas dit les mots corrects, ou bien t'avais pas la bonne position, t'étais assis, moi je voulais que tu sois à genoux, je voulais que tu lèves les mains. » Non, Dieu n'est pas un tyran, c'est une idée fausse. Je vous le dis souvent, le Seigneur est entravé dans ses grands desseins par son propre corps qui n'a pas compris la profonde signification de son élévation, de notre élévation. Le peuple de Dieu n'a pas compris sa propre élévation. Vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et vous pouvez faire et agir et parler en son nom, avec son autorité. Ouh ! Le corps a oublié qu'il est un seul esprit avec la tête. Ça, c'est écrit dans 1 Corinthiens 6, 17. Celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui grâce à son esprit qui vient en nous. L'esprit qui vient en nous, c'est l'esprit de quoi ? C'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Jésus. Si on est uni avec lui, on est un. On est uni. Oubliez ça. Alors il se comporte avec faiblesse. Alors qu'il a l'autorité au nom de Jésus, il a l'autorité, vous avez l'autorité au nom de Jésus. Il est vrai que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Parce que quand on se convertit, on ne sait pas tout. On peut avoir reçu le Saint-Esprit sans savoir tout. Donc il faut apprendre, et le Saint-Esprit est là pour nous apprendre. Mais il est impossible de suivre le Saint-Esprit sans consulter la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, pour connaître la vérité. Je vais vous lire Jean 14, 25, 26. Jean 14, 25, 26. Je vous dis tout cela pendant que je suis encore avec vous, mais le conseiller, l'Esprit Saint que le Père enverra de ma part, vous enseignera toutes choses et vous aidera à les comprendre. Il vous remettra en mémoire tout ce que moi-même je vous ai dit. Dans d'autres versions, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit vous rappelle ce que Jésus a dit si vous ne savez pas ce qu'il a dit ? Et comment voulez-vous savoir ce qu'il a dit si vous ne lisez pas la Bible ? Certains sont tellement spirituels. Chez nous, dans la communauté, on les appelle les TTTS, les très 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 spirituels. Moi, j'en connais même des pasteurs, hein. Même des pasteurs qui disent « Moi, le Saint-Esprit me parle, j'ai pas besoin de la Bible. » Ok. J'ai essayé d'argumenter avec de telles personnes, mais j'ai vu que ça sert à rien. Je vous dis simplement que le Saint-Esprit ne nous sépare jamais de ce qui est dans la Bible. La Bible est née de par Dieu, car ceux qui l'ont écrite connaissaient ce que Jésus avait dit. Sans la Bible, vous ne sauriez même pas que Jésus est venu sur la terre. Si les apôtres n'avaient pas écrit ces choses, vous ne les connaîtriez pas. Mais à quoi bon ? Il y aura toujours des gens qui se croient spirituels alors qu'ils ne le sont pas, selon ce que la Bible dit. Je vais vous raconter une petite histoire rigolote. Vous aimez bien les petites histoires rigolotes? C'était un homme qui alla trouver un vieux sage. Et il lui demanda, « Quel est le secret du bonheur éternel ?» Et le vieux sage lui répondit, « Il ne faut pas argumenter avec les gens bornés. » L'homme qui avait posé la question dit, « Oh, moi je ne suis pas d'accord. » Et le sage lui répondit, « Vous avez raison. » Parce qu'il a vu que c'était un borné. Tu viens poser une question, c'est que tu connais pas la réponse, je te donne la réponse, tu veux pas la réponse, tu as raison, tu es borné, je te dis que tu as raison, c'est bien, je n'argumente pas avec toi. Je dis borné, mais dans l'histoire que j'ai lue, c'était pas le mot borné, c'était le mot imbécile. Est-ce que vous avez compris? Nous devons être d'abord une personne qui connaît ce que Jésus et les apôtres ont fait et dit, et puis nous devons être une personne qui écoute le Saint-Esprit, qui nous rappelle ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit. Et puis c'est tout, comme dirait Gibus. Dans Éphésiens 6, 10, 17, Paul nous parle de prendre les armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme contre toutes les manœuvres du diable. Ah, ça, les chrétiens connaissent bien. Oui, c'est vrai, vous prenez toutes les armes de Dieu pour pouvoir... Et la première arme, vous savez ce que c'est? La ceinture de la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La ceinture du soldat, elle tient en place tout le reste de l'armure. La vérité, c'est Jésus. Pas un Jésus imaginaire, un Jésus que vous pensez que le Saint-Esprit vous a révélé. Non, 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 le Jésus de la Bible. Avez-vous cette ceinture de la vérité? Êtes-vous entouré par cette ceinture? Est-ce que vous êtes environné, enveloppé par la vérité? Pour marcher dans la victoire, nous devons porter la ceinture de la vérité. Si vous ne portez pas la ceinture de la vérité, si vous ne connaissez pas ce que Jésus et les apôtres ont dit, si vous ne lisez pas la Bible, vous n'avez pas la ceinture de la vérité, et puis vous vous plaignez. Mais taisez-vous! Paul nous dit ça parce qu'il sait que le monde, et même ceux qui se disent chrétiens, manquent de vérité. La vérité doit être fondée en Dieu pour que nous puissions tenir ferme face à l'épreuve et que nous puissions être des combattants qui exécutons la volonté de Dieu sur cette terre en exerçant son autorité qui nous a délégué. Dans la Bible, nous voyons que les religieux de tout temps ne se tenaient pas du tout dans la vérité. Oui, il y en a eu quelques-uns, pas grand monde, hein. Je dis toujours, je suis chrétien, mais ce n'est pas grâce aux religieux. Hein. Jésus est venu pour rendre témoignage de la vérité. La vérité doit être ce qui épouse votre vie, ce qui donne un sens à votre vie. La vérité est la force de notre consécration pour que nous tenions ferme dans les mauvais jours. Vous ne tenez pas ferme, vous êtes branlant, vous êtes chancelant, et vous priez, « Seigneur Jésus, je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive à moi. Oh mon Dieu, délivre-moi. » Mais prenez autorité sur ce qui vous embête. Que ce soit des démons, le diable ou des gens, au nom de Jésus, vous les mettez en pièces détachées. Je vous rappelle toujours qu'Amélia, elle vivait sur un petit terrain à Aulnay-sous-Bois, un petit terrain vraiment isolé. Et un soir, excusez-moi, hein, ce n'est pas ma faute, c'était des Arabes. Il y a des Arabes qui sont venus tourner autour de sa caravane pour l'embêter. Alors, elle a ouvert la porte, elle a dit, « Au nom de Jésus, je vous mets en pièces détachées !» Ils ont fui comme s'ils avaient vu le diable. Voilà, elle a pris autorité. Ah, cette Camélia, elle nous manque, hein. Moi, j'ai appris ces choses, j'étais tout jeune converti. Il faut prendre autorité au nom de Jésus. Je vous mets en pièces détachées au nom de Jésus. Et voilà. Elle n'a pas prié. Seigneur, fais que ces gens partent et puis que je sois tranquille. La vérité est une arme défensive contre les accusations du diable, contre les manipulations de l'esprit de ce monde qui influence les gens. La vérité, c'est notre force, ce qui tient notre sanctification. Si nous prenons toutes les armes de Dieu, mais qu'il nous manque la vérité, la ceinture de la vérité, nos armes et notre robe blanchie dans le sang de l'agneau ne tiendra pas sur nous et on va se retrouver à poil. C'est ce que l'apôtre dit. Tu ne sais même pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas mis la ceinture de la vérité. Donc tout ça s'est tombé par terre, tu es tout nu, puis tu ne sais même pas. Lisez Apocalypse. Chapitre 3, je crois. Dans la lettre à la Odyssée. Jésus est la vérité, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » Jean 14, 6. Et c'est ce que nous devons être étant un seul esprit avec lui. Vous allez me dire « Ah bon ?» Oui, nous devons être le chemin, la vérité et la vie parce que nous sommes un seul esprit avec lui selon 1 Corinthiens 6, 17. Sur cette terre, nous sommes son corps et le corps n'est pas coupé de la tête. Si la tête est coupée, le corps est mort. Mort, 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 mort. Donc, vous devez être ce que la tête est et agir comme la tête veut. Mais pour savoir ce qu'il veut, faut lire la Bible. Qu'est-ce que c'est ce sale mauvais esprit pourri qui vous empêche, qui empêche les chrétiens de lire la Bible, d'aimer la Bible, d'aimer la vérité? C'est un esprit de mensonge immonde. C'est un esprit paresseux. Un esprit occupé par mille choses. Le feuilleton de la télévision, il ne faut pas manquer les feux de l'amour, hein? Mais qu'est-ce qui va arriver à Barbara si je... Un esprit de distraction qui vous empêche de lire la Bible. Et puis c'est un esprit qui pleurniche, qui se plaint. C'est un esprit religieux, quoi. Le vrai chrétien, il pratique le psaume 119, 11. « Je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Voilà. Alors je vais arrêter là maintenant. Je termine ma série de prédications au sujet de l'autorité. Soyez des gens disciplinés, lisez la Bible chaque jour, et puis prenez autorité comme la Bible vous dit de le faire, au nom de Jésus. Amen. J'ai parlé un peu fort aujourd'hui, hein, mais c'était pour réveiller certains. Allez, Dieu vous bénisse, au revoir.